Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Rivage de la colère de Caroline Laurent est un roman historique et engagé qui met en scène un épisode longtemps marginalisé de la décolonisation dans l'Occident indien. Le livre a s'ancre dans le destin des habitants de l'archipel des Chagos, expulsés de leurs îles à la fin des années 1960, lorsque le territoire est séparé de l'ensemble mauricien et transformé en zone stratégique au profit d'intérêts militaires, en choisissant la forme romanesque. Elle, autrice, rend sensible des réalités politiques et humaines complexes, en donnant chair à l'attachement à la terre, à l'exil imposé, la perte des repères et à la colère qui naît de l'injustice. La narration alterne les époques et les points de vue, ce qui permet d'embrasser à la fois l'intimité des trajectoires et les mécanismes administratifs et coloniaux qui rendent possible l'arrachement. Le roman vise ainsi à transmettre une mémoire tout en interrogeant responsabilité, silence officiel et quête de justice. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, mettre en lumière le drame des Chagos dans la grande histoire, le premier apport majeur du roman tient à son choix de sujet, la déportation des habitants des Chagos. Un événement réel de la fin de l'Empire britannique, souvent absent des récits scolaires et médiatiques. Le livre montre comment une décision géopolitique peut effacer un peuple du paysage, en le déclarant commode ou négligeable, puis en rendant son retour impraticable. Sans se limiter à l'exposé des faits, la fiction fait ressentir les conséquences concrètes d'une politique de déplacement, perte des maisons, rupture des liens sociaux. Choc de l'arrivée dans un autre espace et sentiment de être devenu indésirable ou invisible. Cette mise en récit a aussi une fonction de contre-mémoire. Elle rappelle que la décolonisation ne se résume pas à des dates d'indépendance, mais inclut des tractations, des renoncements et des victimes. Le roman donne enfin une temporalité longue au drame, en soulignant que l'injustice ne s'arrête pas au moment de l'expulsion, mais se prolonge dans l'attente. Les procédures et la transmission du traumatisme. Deuxièmement, elle exile force comme fracture intime et sociale. Rivage de la colère explore l'exil non comme un simple déplacement géographique, mais comme une fracture qui atteint la dignité, l'identité et la capacité à se projeter. En quittant une lolo, la vie quotidienne est structurée par la proximité du rivage, des voisins et des rituels, les personnages se heurtent à une forme d'arrachage. La perte de la familiarité du monde. Le roman insiste sur la dimension matérielle de cette rupture, la précarité, l'entassement.
La difficulté à retrouver un travail ou une stabilité.
Cette expérience reconfigure les familles, met à l'épreuve les solidarités et révèle la violence des hiérarchies sociales. En rendant visibles ces mécanismes, Caroline Laurent fait comprendre que l'exil imposé n'est pas seulement une conséquence collatérale de décisions lointaines, mais une stratégie qui produit du silence et de la docilité. La colère devient alors une énergie de survie, une manière de refuser l'effacement. Troisièmement, alternance des points de vue pour saisir pouvoir et vulnérabilité. La construction du récit repose sur une alternance de personnages et deux époques qui permet d'articuler deux dimensions souvent séparées. Elle expérience vécue et les logiques de pouvoir. D'un côté, le roman suit des personnages étroitement liés à la terre chagossienne, dont l'attachement est charnel et immédiat. De l'autre, il introduit des figures au contact de l'administration et des décisions coloniales, ce qui éclaire les compromis, les silences et les mensonges qui rendent l'expulsion possible. Cette mise en tension évite une lecture uniquement manichéenne, non pas en relativisant l'injustice, mais en montrant comment des individus peuvent être pris dans des chaînes de responsabilité, entre obéissance, intérêt, peur et lucidité tardive, en alternant les focalisations. Le roman fait sentir la dissymétrie radicale entre ceux qui décident et ceux qui subissent, tout en laissant apparaître des zones de conflit intérieurs. Le lecteur comprend mieux la mécanique du déni, la manière dont une décision administrative devient une catastrophe humaine. Et comment la violence peut être exercée sans toujours se dire comme telle. Quatrièmement, une fiction documentée au service de la mémoire et de la justice. Caroline Laurent s'appuie sur une matière historique solide, tout en choisissant le roman pour toucher autrement que par l'essai. La fiction permet d'entrer dans les sensations, les gestes, les attachements et les humiliations, et donc de transformer une information en expérience de lecture. Ce choix a une portée éthique, car existait des vies que les archives officielles ont parfois réduites à des catégories administratives. Le livre est également conçu comme un relais de mémoire, rappelant qu'un événement peut rester vivant bien après sa survenue, parce que ses effets sociaux et psychologiques se prolongent. Elle, autrice, ajoute une postface qui replace l'histoire dans son contexte, ce qui ancre la lecture dans le réel et indique clairement l'intention de transmission. Le roman suggère enfin que la justice peut prendre plusieurs formes. Reconnaissance, visibilité publique, réparation symbolique. Et que la littérature participe à ce processus en créant une attention durable. Elle œuvre, se situe ainsi, dans une tradition de récit qui cherche moins à instruire un dossier que à rendre impossible l'indifférence. En dernier lieu, amour. Lien et résistance dans un récit politique, même si le cœur du livre est historique et politique. Rivage de la colère intègre une dimension romanesque qui passe par les liens affectifs, familiaux et amoureux, et l'intrigue sentimentale. Telle qu'elle est souvent mentionnée par les lecteurs et présentations, ne sert pas seulement à ajouter du suspense. Elle fonctionne comme un révélateur des contraintes imposées par la domination coloniale et par les décisions de l'État. Les relations se heurtent à l'asymétrie des positions, à l'opacité des informations et à l'impossibilité de choisir librement son avenir quand un territoire entier est promis à la dépossession. Le roman montre aussi d'autres formes de liens, la solidarité communautaire, la filiation, l'entraide, qui deviennent des ressources face à l'exil et au mépris. La résistance, elle n'est pas seulement spectaculaire, elle est quotidienne. Préserver une langue, des souvenirs, une manière de d'habiter le monde. Ou continuer à réclamer le droit d'être reconnu. En plaçant elle intime au centre, Caroline Laurent rend la lutte compréhensible sans passer par un discours théorique. Et rappelle que la politique se mesure d'abord à ce qu'elle fait au corps, aux familles et aux promesses. En conclusion. Rivage de la colère s'adresse au lecteur qui cherche un roman capable de conjuguer puissance, d'émotion et compréhension de un pan d'histoire contemporaine encore insuffisamment connu. Il conviendra particulièrement à ceux qui aiment les récits où la petite histoire, celle des familles et des choix intimes, se confronte à la grande, celle des empires, des négociations et des intérêts militaires. Sur le plan intellectuel, le livre aide à penser la décolonisation au-delà des récits officiels, en montrant comment des décisions administratives peuvent produire un exil durable et une invisibilisation collective. Sur le plan humain, il offre une expérience d'empathie structurée par la colère, non comme simple indignation, mais comme force de survie et de revendication. Ce roman se distingue dans la catégorie du roman historique par son équilibre entre souffle narratif et intention mémorielle, ainsi que par son effort de contextualisation en fin d'ouvrage. Il se place aussi parmi les œuvres qui font de la littérature un outil de transmission, en rendant accessibles des enjeux géopolitiques par des destins incarnés. En refermant le livre, on garde une compréhension plus fine du prix humain des choix de l'État et du rôle que peut jouer la fiction dans la cote de reconnaissance. Si vous souhaitez soutenir Caroline Laurent, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.